Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à tous, bienvenue dans la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du mensuel Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. C'est Roland Gory, psychanalyste, professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille, l'un des fondateurs de l'Appel des Appels, qui est avec nous. Votre dernier essai s'appelle « L'individu ingouvernable ». Vous faites le constat discret du discrédit de la politique, un constat assez sévère, on aura l'occasion d'en parler. Bonjour Roland Gory.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Michel Guéraud. Auparavant, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel qui s'y colle.
Pour faire le portrait d'un oiseau, il faut peindre d'abord une cage avec une porte ouverte avant d'arracher tout doucement une des plumes du volatile. Pour analyser en 3 minutes le parcours d'un psychanalyste auréolé du titre de professeur émérite de psychopathologie clinique, c'est un tantinet plus complexe. Humble journaliste de la presse pas pareil, j'ai d'abord failli céder à une névrose d'échec devant l'ampleur de la tâche. Mais puisque Roland Gory, les mots sont votre matière, j'ai décidé tout simplement de citer pêle-mêle quelques titres de vos ouvrages et de laisser à ceux qui nous écoutent le soin d'en interpréter le sens par association libre. Sur Radio Grenouille, c'est très facile car les auditeurs sont des spécialistes de l'écoute flottante. Je commence donc en allant du plus ancien au plus récent, Logique des passions, La santé totalitaire, Le consentement, L'empire des coachs, Exilé de l'intime, La dignité de penser, La fabrique des imposteurs, L'individu ingouvernable dernier. Je ne résiste quand même pas à une pulsion régressive, celle d'un éclairage biographique à la source Wikipédia, pimenté aux archives en ligne de Libé. Fils d'un père communiste militant et d'une mère catholique plutôt à droite, vous étudiez à Paris, mais vous avez grandi et enseigné à Marseille. Et je cède à un principe de plaisir, celui de souligner que, contrairement à de nombreux universitaires, l'engagement dans le débat public n'est pas pour vous un tabou. Vous êtes aussi, ainsi, l'un des principaux initiateurs en 2004 du mouvement Pas de zéro de conduite contre le dépistage dès la maternelle de présumés futurs délinquants. Beaucoup vous associent également à l'appel des appels que vous avez lancé en 2008, une invitation à l'insurrection des consciences contre la déshumanisation de notre société au nom du culte de la performance. Vous poursuivez toujours l'exploration des mécanismes profonds de la crise sociale, culturelle et politique que traversent nos démocraties soumises à la religion du marché. Les symptômes abondent en effet face auxquels il semble parfois bien difficile de rêver à un autre possible ou même simplement d'espérer éviter de sombrer dans la psychose, c'est-à-dire celle qui conduit au retour du pire. La cure pourrait être longue mais l'enjeu est vital. Il s'agit selon vous de réinventer l'humanisme, rien de moins.
Roland Gory, un commentaire peut-être à ce portrait, il est juste, on ne s'est pas trop éloigné ?
Oh non, je crois qu'il est absolument parfait. Je ne sais pas si ça n'est pas 2005, par contre, Pas de zéro de conduite. Voilà, il faut quand même chercher un petit peu la faille, hein, c'est important.
Alors Roland Gory, de nouvelles mobilisations sociales qu'on a du mal à comprendre avec l'ancien prisme, celui de la conscience de classe, qui était le prisme classique pour lire tous les mouvements sociaux quasiment. De nouvelles donc mobilisations qui émaillent l'actualité, leur cible, c'est le libéralisme ou le néolibéralisme, source de précarité. Parmi ces mobilisations, il y a les indignés, Occupy Wall Street, les nuits debout. Que vous disent Roland Gory de notre actualité, toutes ces nouvelles formes de conflits ?
Alors, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas céder au démon de l'analogie et considérer que nous avons affaire, je dirais, aux mêmes formes de mobilisation, ni que ces mobilisations vont déboucher sur le même type d'organisation politique contestataire d'une démocratie radicale ou d'une démocratisation de la démocratie, pour aller vite. Simplement, je crois qu'ils naissent incontestablement de la crise du libéralisme en tant que guide des conduites, en tant que valeur, vision du monde, en tant que, on va dire, révolution symbolique, pour parler comme Bourdieu, c'est quoi une révolution symbolique ? C'est à un moment donné une espèce de conversion dans la manière de penser le monde, dans la manière de voir le monde, et bien sûr, dans la manière de le vivre, de l'éprouver et de l'agir. Donc je crois que nous sommes aujourd'hui face à quelque chose qui est l'effondrement du crédit que l'on pouvait apporter à ce qu'on a appelé à un moment donné le néolibéralisme. je crois qu'il faut peut-être le préciser pour vos éditeurs.
Oui.
Qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? C'est à un moment donné l'extension du modèle économique à l'ensemble des secteurs culturels et sociaux, c'est-à-dire que, en gros, c'est la promotion, si vous voulez, d'un individu entrepreneur de lui-même, et c'est également la modélisation de l'ensemble des services que l'on peut rendre, par exemple au niveau des services publics, mais pas seulement, y compris les prestations privé que l'on peut offrir dans une famille, le choix du conjoint, le nombre d'enfants, la manière de s'habiller, la manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Si vous voulez, je crois qu'il y avait véritablement, dans ce qu'on appelait l'école de Chicago, Gary Becker, Friedman et autres, il y avait quelque chose qui était que, en gros, un individu, ça fonctionne comme pour une entreprise, en termes d'investissement, de coûts et de rapports. Bon, ce modèle-là, il s'est avéré tout à fait monstrueux, puisque ce qu'il a produit, si vous voulez, c'est une espèce de pulvérisation du champ social, une atomisation de la société, avec, on va dire pour faire vite, la lutte de tous contre tous, la compétition de tous contre tous.
Alors, affinons peut-être un peu, ces mouvements sociaux de part et d'autre de l'Atlantique, comme je le disais tout à l'heure, procèdent de la même manière, prise de parole, rébellion, rejet. À quel type de conflit est-ce qu'on a affaire? Est-ce qu'on peut déjà voir ce type de conflit, l'analyser ou pas encore?
Je crois qu'il est, il est difficile pour l'instant de rendre compte justement du caractère novateur de ces conflits. Parce que rendre compte du caractère novateur, si vous voulez, de ces conflits, c'est éviter de les lire justement avec les lunettes du passé. Mmh. Donc non, je préfère ne pas répondre à cette question. Je pense simplement qu'il est de plus en plus insupportable aux gens de considérer que 99%, je dirais, possède les ressources principales. C'est un lapsus. 99% sont justement laissés à la merci de 1% qui possède les ressources principales. Enfin, bon, vous le savez, les inégalités sociales ont flambé. Et ça, je crois que c'est un point important. C'est un point important parce que chaque fois, les différents libéralismes dans l'histoire ont promis que la production de richesses collectives améliorerait le bien-être de chacun. Et ça s'est chaque fois révélé un mensonge. Et c'est à ce moment-là que vous avez des révoltes, des insurrections ou des révolutions.
Aujourd'hui, on peut dire que le capitalisme contemporain, c'est l'adversaire privilégié? C'est le seul point commun?
On peut, mais il est extrêmement... Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il est évident que le capitalisme financier, c'est-à-dire la financiarisation de l'ensemble, si vous voulez, des activités humaines qui finalement n'ont de valeur que par ce qu'elles rapportent en termes de prix, c'est quelque chose qui massacre tout à fait, par exemple, les services publics, que ce soit du soin, de l'enseignement, de la recherche, de la justice. Et donc cette manière de penser, elle nous est insupportable. Mais parler, si vous voulez, le grand danger, on a bien vu au niveau des siècles précédents, le grand danger, c'est un peu d'essentialiser, d'identifier, de transformer en entité, si vous voulez, un système qui maltraite les citoyens. Je pense que, effectivement, la dérégulation des marchés, la désertion par le politique de ses responsabilités, l'abandon par l'État des services publics qu'il a transformé, qu'il a même modélisé, c'est non seulement un abandon, mais plus encore, c'est une forme de colonisation de l'ensemble des services par la religion du marché. C'est-à-dire que l'État s'est fait, si vous voulez, le garant et le gérant loyal, justement, des intérêts privés, du capitalisme financier. Donc je crois que, oui, bien sûr, il y a ça, mais je crois que d'une manière plus générale, il y a l'idée qu'on ne veut plus vivre dans ce monde-là, qui est un monde des inégalités sociales considérables, et qui est aussi un monde de servitude, un monde de soumission sociale imposé par ce que moi j'appelle dans mon livre, comme vous savez, le technofascisme. Mmh. Il y a une certaine manière quand même de conduire les individus.
Michel. On va revenir évidemment en détail sur ce technofascisme, hein. Mais on prend finalement les choses à l'envers en suivant l'actualité. Dans le dernier chapitre de votre dernier ouvrage, vous dites qu'il faut objecter par le rêve et le récit à la curatelle technico-financière. Le rêve, le récit, Place de la République, Nuit debout, le slogan c'est « rêve général ».
Ça c'est formidable. Non mais enfin, bon, j'ai pas répondu à Rafi très précisément, mais il va de soi, si vous voulez, que le mouvement Nuit debout, je ne sais pas de quoi demain il accouchera, comme parole politique. Et éventuellement, s'il donnera dans ses conséquences une formation politique à même justement de changer un peu la donne, mais il constitue déjà la réappropriation des espaces publics, la réappropriation d'une parole et une autre manière d'entrer en relation les uns les autres. On n'est plus dans un aéroport où on se croise, où on enregistre, on est avec des gens qui se parlent. Donc, ils se parlent, ça veut dire qu'ils partagent quelque chose de l'expérience sensible, c'est quand même ça la base de la démocratie. C'est-à-dire de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir rêver ensemble. Au passage, quand même, je vous fais remarquer que la réduction des familles de langues, je parle volontairement de langues, la réduction des familles de langues au profit quasiment de l'anglais, et de l'anglais de l'obiche, c'est-à-dire de l'anglais d'aéroport, pour aller très vite, est quelque chose de terrible, parce que c'est aussi une façon d'obliger les gens de rêver dans une certaine langue. C'est pas simple. Et donc de donner le monde dans une certaine langue. Là, vous avez, justement, sur les différentes places publiques, des gens qui parle une langue plurielle. Et je crois que le politique, c'est l'articulation du pluriel et du singulier.
Alors, vous le dites aussi. Alors, on peut se moquer. Nous, on est un journal satirique, donc ça nous arrive de moquer, y compris les nuits debout. On peut se moquer de ces micro-discussions, de ces procédures. Mais vous dites qu'il faut recréer des espaces micro-politiques. On en est là, sur ce besoin-là. C'est-à-dire, on est dans la micro-politique, mais c'est important, c'est l'étape pour reconstruire quelque chose, reconstruire la démocratie.
Ça rejoint la question que posait Rafi au tout début de l'émission. C'est-à-dire que, si vous voulez, je crois que les entités traditionnelles dont nous avons hérité, qui sont les entités du 19e siècle et qui ont été quelque peu, je dirais, pratiquées, voire usées au cours du 20e, elles sont actuellement en crise. Je veux dire, c'est pas seulement l'État qui est en crise, c'est pas seulement l'Europe qui est en crise, c'est pas seulement les nations qui sont en crise, c'est aussi les partis, c'est aussi, si vous voulez, les syndicats, c'est tout ce qui était entité, je dirais, qui s'est constitué à un moment de l'histoire, aujourd'hui, doivent être déconstruites et reconstruites autrement. Alors, parmi, si vous voulez, les manières de reconstruire, je crois qu'il y a effectivement les microstructures politiques. C'est-à-dire quelque chose qui nous oblige à repenser autrement, par exemple, la notion d'universalité. Est-ce que l'universel, c'est un modèle de raison, par exemple, c'est un modèle d'appréhension de l'humain, ou est-ce que l'universel, ça n'est pas, par exemple, le mélange des genres, le mélange des langues, le mélange des cultures, ce que le poète Édouard Glissant appelle la créolisation. Est-ce que, justement, c'est pas aujourd'hui quelque chose du côté de la biodiversité, des manières de penser le monde, de rêver le monde et d'échanger ensemble? Est-ce que ça n'est pas ça l'avenir du politique?
La formule de vous avez dit en tout cas, on invente, c'est ce qui trouble, on ne reproduit pas. C'est ce qui se passe actuellement?
Alors, je ne sais pas si... C'est très difficile de faire le diagnostic du présent en ayant un peu un œil sur l'avenir.
C'est ce qui semble déconcerter un peu tout le monde, ces agora à ciel ouvert où l'on parle de tout.
Mais ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Encore une fois, je ne sais pas sur quoi ça débouchera. Je sais ce qu'il faudrait éviter de faire. Les incidents que vous connaissez, par exemple, sont absolument inacceptables. Si on pose un espace du débat, il faut accepter de pouvoir débattre, même avec des gens qui disent des bêtises, même avec son pire ennemi. Je crois que ça fait partie, si vous voulez, de la démocratie. Moi, j'ai une conception.
Là, ce que vous dites, là, on est dans la phrase de Bertolt Brecht, la violence serait inutile si l'homme était raisonnable. Justement, vous critiquez ces normes et cette raison. Après tout, ils ont le droit de chasser qui ils veulent parce qu'ils en ont envie.
Pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit de chasser qui ils veulent? On va appeler un chat un chat. Vous faites allusion à l'incident Figel-Crotte?
Oui.
Bon, moi je pense que c'est inadmissible de cracher sur la gueule. Je trouve ça absolument inadmissible, je suis désolé. C'est-à-dire que je ne partage pas forcément, bien sûr, les paroles, les discours, les interventions de Figel-Crotte, mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être sur la place de la République, parce que la République appartient, justement, si vous voulez, aux citoyens. Et donc il est un des citoyens parmi d'autres. Sinon, vous avez l'appropriation par un groupe ou l'appropriation par un collectif de quelque chose qui est de l'ordre d'une place publique. Il y a là une contradiction. C'est-à-dire, pour moi, si vous voulez, c'est le moment où le risque majeur en politique, c'est une parole qui n'est pas consistante avec l'acte qui l'accompagne. C'est-à-dire que une parole qui ne montre pas ce qu'elle dit, elle devient consistante. C'est d'ailleurs un jour ce que j'ai répondu à M. Copé lors d'un débat.
Michel ?
D'accord. Il y a un autre élément qui doit résonner pour vous, j'imagine, dans le moment social qu'on connaît, c'est cet appel à faire converger les luttes. Parce que, bon, l'appel des appels, c'était 2008, mais c'était déjà ça. C'était, vous disiez, se rapproprier une liberté de parole et de penser par la société du mépris. Hein. C'était aussi faire converger les professionnels du soin, du travail social, de l'éducation, de la justice, de l'information, de la culture.
Oui.
Ce besoin-là, ça répond à quoi de convergence ?
Alors, il faut quand même resituer les conditions, je dirais le contexte historique, culturel et social au sein duquel émerge l'initiative de l'appel des appels. L'appel des appels que nous avons lancé par un manifeste avec, si vous voulez, Stéphane Chédry et quelques amis quand même. C'était le constat que ce dont pouvait se plaindre, par exemple, un pédiatre, ce dont on pouvait se plaindre un chercheur, ce dont pouvait se plaindre un travailleur social, ce dont pouvait se plaindre un journaliste, un magistrat, etc. Il fallait cesser de faire des appels régionaux, des appels sectoriels. C'est-à-dire, il y avait sauvons l'hôpital, sauvons la recherche, la nuit sécuritaire, pas de zéro de conduite, sauvons les FNARED, sauvons l'enseignement, etc. Il fallait essayer de voir si finalement ce malaise, cette souffrance et cette révolte des professionnels dans chacun de ces secteurs ne relevait pas d'une matrice commune de violence symbolique opérée justement par la culture politique à ce moment-là en vogue, c'est-à-dire le sarkozysme. Pour aller vite. Bon. Donc, si vous voulez, le constat, c'est que les manières d'évaluer le travail, d'évaluer les actes professionnels, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les laboratoires de recherche, que ce soit dans les salles de rédaction, que ce soit, si vous voulez, dans les tribunaux, que ce soit dans les maisons de la culture, etc., ou dans les théâtres, et finalement, procéder de la même manière, c'était une espèce de décomposition de nos pratiques professionnelles au profit d'une nouvelle manière de penser le monde, c'est-à-dire de transformer tout ce que nous faisions, si vous voulez, en espèce de production d'entreprise. C'est-à-dire, cela visait, n'est-ce pas, c'est comme si le pouvoir politique, en quelque sorte, n'est-ce pas, demandait que nous nous fassions les instruments donc d'un pouvoir qui transformait nos citoyens en instruments. C'est-à-dire, en gros, nous nous aligner sur le modèle, si vous voulez, d'une espèce de fonctionnalisation, d'instrumentalisation, de fonction, quasiment au sens animal du terme, c'est de transformer tout ce que nous faisions en langage de machine ou en langage de comptable. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure, si vous permettez. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, la rencontre formidable, c'est que, par exemple, des employés d'une plateforme d'Orange, ça a eu lieu en novembre, c'est un peu plus tard qu'en novembre 2009, ont constaté que la souffrance qui était la leur, c'est la transformation d'une culture de service public en culture d'entreprise avec affichage, palmarès, du nombre d'appels reçus, du nombre d'appels traités, etc. Ça ressemblait étrangement à la tarification à l'activité à l'hôpital, où ça ressemblait étrangement, si vous voulez, au palmarès des universités ou des laboratoires de recherche. Donc, je crois que ça a été formidable, c'est de constater que nous souffrions tous, d'une certaine manière, et ce qui nous révoltait et qui finalement cassait l'éthique de nos métiers, d'une introduction, d'une logique de marché dans des secteurs professionnels qui, jusque-là, avaient été relativement exemptés. Ça a été formidable. Ce qui a été terrible pour nous, c'est que nous pensions que l'élection d'un socialiste à la présidence de la République et d'un gouvernement socialiste allait changer la donne. Or, malheureusement, nous sommes aperçus que c'était le même logiciel. C'est-à-dire que dans le domaine de l'hôpital, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement, c'était pareil. Avec peut-être, de temps en temps, des coussins compassionnels pour accueillir ceux qui tombaient, si vous voulez, ceux qui étaient accidentés par la vie, mais Sinon, le logiciel est le même. Et je dirais presque que ce qui est pire aujourd'hui, peut-être que ça répond aussi à la question posée par Rafi au début, ce qui est pire aujourd'hui, c'est que nous nous apercevons que du côté de ce qu'on aurait pu appeler la possibilité d'une pensée de gauche, on est dans une espèce de social-libéralisme qui n'a rien à voir avec la social-démocratie. Mmh. C'est absurde de dire que Hollande, Valls et autres sont des social-démocrates, c'est absurde. Ce sont des sociaux-libéraux, ce qui n'a rien à voir, n'est-ce pas ? Et on continue donc sur la même pente qui est extrêmement dangereuse et qui explique peut-être justement tous ces, enfin une partie au moins, de ces mouvements d'insurrection des consciences.
Alors justement, vous avez prononcé le mot travail hein, dans l'essai, l'appel des appels qui a suivi le mouvement. Vous disiez, vous parliez de la centralité du travail comme fondement identificatoire des existences dans notre modernité. C'est une loi travail, c'est la loi El Khomri qui amène les gens dans ces agora. Il y a un mouvement social, il y a quelque chose qui éclot autour justement de la question du travail et d'une vision politique pour réformer une fois de plus le monde du travail qui est certainement social-libéral, comme vous le dites. C'est central cette histoire du travail.
Et Michel, vous avez parfaitement raison, mais il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est Hannah Arendt qui est la philosophe, la première, qui a montré que nos sociétés modernes, nos sociétés occidentales notamment, étaient organisées autour du travail comme étant la valeur cardinale, la valeur centrale de l'organisation sociale. Et comme elle dit elle-même, d'ailleurs, le pire à ce moment-là, c'est dans une société organisée par le travail, c'est d'être un travailleur sans travail. Alors, ça, c'est Hannah Arendt. Aujourd'hui, ce qui a un peu changé, parce qu'encore une fois, il faut citer les ancêtres, mais pas forcément répéter purement et simplement dans la tradition. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il y a une espèce de précarisation, si vous voulez, d'ubérisation des conditions de travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se constituer comme un champ intermédiaire entre les conditions de l'emploi qui permettent d'accomplir un travail, éventuellement un métier, ce qui n'est pas encore tout à fait la même chose, il faudra peut-être qu'on en parle, et puis le chômage. Entre les deux, aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est la promotion de l'auto-entrepreneur. Et alors, c'est très intéressant, parce que la promotion de l'auto-entrepreneur, ce n'est pas simplement un statut, si vous voulez, administratif, un statut juridique ou un statut, si vous voulez, social. C'est aussi un statut psychologique. C'est-à-dire que dans une société néolibérale, si vous voulez, l'individu est appelé à être auto-entrepreneur. C'est-à-dire justement à essayer de faire fructifier son capital biopsychosocial dans un rapport avec les autres qui deviennent des partenaires de l'échange, c'est-à-dire comme une entreprise. Voyez. Autre point important par rapport à la loi El Khomri, si vous voulez, ce qui est très important, c'est aussi, de plus en plus, alors Macron est un très bel exemple, c'est de plus en plus une évolution vers la notion de contrat aux dépens de la loi. Or, quand même, il y a eu un temps, il faut revenir au 19e et au 20e siècle, il y a eu un temps où on a constaté, hein, je pense à Lacordaire n'était pas un gaucho-marxiste, comme vous savez, mais Lacordaire disait que entre le fort et le faible, c'est la loi qui protège et la liberté qui a servi. C'est-à-dire que l'évolution vers le contrat, si vous voulez, aux dépens de la loi, est une évolution qui constitue, historiquement parlant, je parle bien d'histoire, hein, historiquement parlant, une régression sociale. C'est-à-dire que faire du contrat, si vous voulez, la source du droit, est quelque chose qui, finalement, nous renvoie au 19e siècle, où la notion d'autonomie de la volonté, dont je parle justement dans mon bouquin, la notion d'autonomie de la volonté était considérée comme, si vous voulez, l'individualisme juridique et l'individualisme philosophique qui justifiait que, à la force de travail, de se vendre sur le marché et de se faire acheter. Or là, on est dans quelque chose quand même qui est de l'ordre d'une régression sociale.
Qu'est-ce que vous appelez la démocratie sans esprit démocratique ?
Alors, oui, bien sûr, la démocratie sans esprit démocratique, c'est une démocratie fantôme qui ne repose plus que sur, je dirais, les institutions formelles. C'est-à-dire qu'une voix vaut une voix, mais bien évidemment, le lieu d'où on la prononce n'est pas le même.
Vous voyez, vous allez quand même très très fort parce qu'on imagine, oui. Comme ça, quand on pense à libéralisme, on pense à... On se dit ce système-là a plein de défauts, mais on est très très loin de toute forme d'autoritarisme. Et vous dites, attention, le libéralisme, je simplifie, c'est pas vos mots, mondialisé peut s'accommoder d'un revival fasciste. Alors, ça serait bien de revenir sur ce thème de fasciste que vous employez. Vous parlez de technofascisme, vous dites qu'il y a dans cette curatelle technico-financière qui pèse sur les peuples et les nations, il y a en germe la possibilité d'État et d'une gestion politique ultra-autoritaire aujourd'hui au XXIe siècle dans le cadre du social-libéralisme.
Bien sûr. Il faudrait, si vous le permettez, il faudrait essayer de décomposer les mots que vous avez employés. Bon, sur le terme de fascisme, je préfère y revenir tout à l'heure si vous le permettez. Mais disons en tout cas que c'est un mot qui est très compliqué, comme vous savez, qui de temps en temps fait référence à des événements historiques, à d'autres moments quasiment constitue une injure, et troisièmement est parfois placé dans une espèce d'extension hyperbolique de la notion. C'est peut-être un peu là où je me situe, à condition de préciser un petit peu ce dont il s'agit, mais on le fera peut-être tout à l'heure si vous voulez bien. Enfin, c'est comme vous voulez.
Allez-y.
Bon. Alors, ensuite... si vous voulez, le technofascisme, justement, c'est là où, d'une certaine façon, on peut dire que la curatelle technico-financière, effectivement, je donnerai un exemple tout à l'heure, la curatelle technico-financière, si vous voulez, constitue quelque chose qui est énormément contraignant, qui est énormément autoritaire. Simplement, c'est une manière de donner les ordres sans en avoir l'air. Je m'explique. Quand, par exemple, M. Schäuble, lorsque Syriza, Tsipras, va négocier à Bruxelles la dette grecque, dit à M. Sapin, il n'y a aucune raison que des élections changent quoi que ce soit. La règle, c'est la règle. Quand on dit, il n'y a aucune raison que des élections changent quoi que ce soit, la règle, c'est la règle, pour moi, vous êtes là dans le symptôme le plus obscène de la décomposition de la démocratie, n'est-ce pas, qui à ce moment-là est simplement demeurent simplement les fantômes formels des institutions démocratiques. Pourquoi? Parce que ça veut dire que donc c'est pas la peine, ça sert à rien d'aller voter. Donc c'est un appel à l'abstention. Si mon vote ne modifie quoi que ce soit, je vois pas pourquoi j'irai voter. Ou alors c'est une incitation à la révolte. Donc vous voyez, voilà l'exemple même où vous avez une règle dont on s'aperçoit d'ailleurs qu'on peut un peu les aménager, comme vous savez, n'est-ce pas, une règle formelle qui est comme si elle était naturelle, comme si elle était évidente, comme si elle n'était pas contestable. Je pense qu'on est là, je réponds un peu indirectement, mais dans une forme de fascisme, vous voyez ? C'est-à-dire que, bon, je vais répondre tout de suite sur le fascisme. Le fascisme, si vous voulez, tel que je l'entends, c'est pas au niveau, bien sûr, d'un événement simplement historique, puisqu'à ce moment-là, vous prenez 1919, 1923, etc., 1930, bon, à ce moment-là, vous avez des formes de gouvernement bien précis, des régimes politiques bien précis, c'est situé historiquement, etc. Bon, c'est pas ça. Le fascisme, c'est, en quelque sorte, l'obligation de dire le monde dans une seule langue. Par exemple, la langue du marché. Vous voyez ? Et avec cette idée, d'ailleurs, que vous allez produire, à partir de l'énonciation de cette langue, vous allez produire un homme nouveau. Alors ça va être, bien sûr, l'homme italien, n'est-ce pas, rêvant de l'Empire romain avec Mussolini. Ça va être, n'est-ce pas, le nazi, l'arien du peuple allemand le plus pur avec Hitler. Mais ça va être aussi l'homme néolibéral. C'est, si vous ne permettez pas l'expression d'une autre façon de dire le monde qu'une seule langue, que, si vous voulez, un seul système de valeurs, à mon avis, vous êtes là dans quelque chose qui déjà est le totalitarisme, pour aller vite. Ce totalitarisme, à partir du moment où il se dote de moyens, de contraintes auxquelles on ne peut pas échapper, je crois que c'est quand même ça aujourd'hui le cas, vous voyez, on est dans quelque chose qui est justement le fascisme, avec l'élimination des dissidents que l'on ne va pas, dans nos sociétés, éliminer physiquement, mais que l'on va éliminer symboliquement et socialement, c'est-à-dire qu'ils deviennent invisibles. En tout cas, ils n'ont plus la reconnaissance, le respect qui leur accorde une dignité et une liberté essentielle, à mon avis, à la constitution de l'homme, à la constitution humaine.
Roland Gori, on peut opposer la démocratie aujourd'hui à la technocratie ?
Oui, alors, vous savez, Bourdieu avait une phrase formidable, et je ne vais pas beaucoup dépasser les analyses de Bourdieu, qui étaient en 95, déjà en 1995, tout à fait fulgurantes, de ce qu'il disait que la technocratie avait confisqué la démocratie. Et quand tout à l'heure j'évoquais les mouvements comme Nuit Debout, encore une fois, dont je ne sais pas ce qu'ils vont en devenir, hein, que les choses soient très claires, mais en tout cas, ces événements, ils viennent quelque part faire bouger les lignes, c'est-à-dire ils viennent se réapproprier une parole qui a été confisqué par les technocraties. Parce qu'il n'y a pas qu'une technocratie. Il y a aussi les technocraties des partis, il y a aussi les technocraties des syndicats, il y a aussi les technocraties, si vous voulez, de l'État, des entreprises, etc. C'est-à-dire que c'est un point qui me paraît extrêmement important, vous voyez. Et sur la technique, quand même, si je peux dire juste un mot sur la technique, vous voyez bien comment aujourd'hui, dans notre monde numérique, n'est-ce pas ? Vous avez un logiciel, un ensemble de logiciels qui est un logiciel aussi des conduites, d'une manière de procéder. Et si vous ne procédez pas de cette manière, si vous prenez le champ qui est le vôtre, si vous ne procédez pas d'une certaine manière, avec un certain mode d'emploi, que ce soit des instruments qui sont dans ce studio, ou que ce soit, si vous voulez, des créneaux horaires que l'on va vous accorder, ou que ce soit, si vous voulez, des indicateurs, des marqueurs, par exemple, comme le nombre d'audimates, d'auditeurs que vous etc., vous ne passez pas, vous n'existez pas. Donc vous êtes quelque part contraint d'une manière terrible. Et on est tellement habitué à cela qu'on n'imagine pas qu'au XIXe siècle, si vous voulez, quand s'est mis en place cette espèce de quadrillage normatif, justement, de la vie, hein, il y avait d'autres manières de penser avant. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'un artisan, il pouvait faire son travail, aller boire un coup, aller discuter avec des copains, etc. Il n'avait pas le même mode d'emploi, du temps, que ce qui s'est imposé progressivement, c'est-à-dire au moment notamment de la deuxième révolution industrielle.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Avec nous, Roland Gory, Michel Guéraud.
Je reviens sur l'aspect que pourraient prendre nos sociétés, un aspect extrêmement autoritariste, et qui peut surprendre, c'est-à-dire qu'on est peut-être, dites-vous, il me semble, dans l'illusion d'un laisser-faire, d'un grand libéralisme, mais on le constate, il y avait les débats sur l'état d'urgence, on fait face aussi à la mise en place de démocraties sécuritaires, à des politiques de la peur, voire même de la terreur, et à un consentement peut-être des populations au renoncement de leur liberté au nom de la sécurité. Est-ce que ça, c'est aussi le temps politique qui est le nôtre ?
Alors, je crois que c'est le temps politique qui est le nôtre, mais qui, à mon avis, ne se limite pas aux mesures sécuritaires. Je veux dire par là que, comme le disait Michel Foucault, la liberté, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, au moment de la philosophie des Lumières, la liberté s'est accompagnée de la mise en place de dispositifs de sécurité. Simplement, vous voyez, on n'est pas dans le même type de rapport d'autorité. Ce n'est pas l'autorité, c'est la sécurité. Cette sécurité, elle est le contrôle, la surveillance et la normalisation des populations et des individus. Donc, c'est déjà une vieille histoire. Bon. Mais le point essentiel, c'est que les gouvernements vont utiliser la peur au moment où ils sont en déficit de crédit politique. C'est-à-dire que la peur émerge aussi dans un contexte, qui est un contexte à la fois social, culturel et politique, justement, où, on va dire, si vous voulez, il faut jouer sur la peur pour pouvoir gouverner. Alors, je vais essayer de m'expliquer plus précisément. Hannah Arendt disait, puisque je cite beaucoup Hannah Arendt, comme vous savez, Hannah Arendt disait que la peur est un principe fondamentalement antipolitique. Et si vous reprenez d'ailleurs Montesquieu, parce que Montesquieu différencie, n'est-ce pas, la monarchie, la République et la tyrannie, n'est-ce pas, il dit que la monarchie repose sur une logique de distinction. La valeur cardinale de la monarchie, c'est l'honneur. Et ça s'organise, si vous voulez, dans une logique de discrimination, de distinction, etc. La République, n'est-ce pas, elle repose sur une vertu cardinale qui est justement la vertu républicaine, c'est pas, et la tyrannie repose sur un principe fondamental qui est la peur. Et donc, avec la peur, il n'est pas nécessaire de convaincre, il suffit de faire peur pour soumettre et contraindre. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, bien sûr, il y a les mesures sécuritaires. Aujourd'hui, il y a Daesh, aujourd'hui, il y a Al-Qaïda, aujourd'hui, il y a un certain nombre, on va dire, de mouvements dont on n'a pas encore parlé, mais je pense qu'on va en parler, n'est-ce pas, qui font régner la terreur ou qui utilisent la terreur comme manière politique de gouverner. Bon. Alors, bien évidemment, les démocraties sont défiées, les démocraties sont déstabilisées par, si vous voulez, cette provocation, je ne sais pas si le mot de guerre est juste, mais en tout cas, cet affrontement, et elles sont touchées au cœur. Bon. Mais moi, je crois que ça existait avant, la peur. C'est-à-dire que je crois que, du fait même que nous étions dans une société du risque, du fait même que, si vous voulez, nous avions quelque part perdu l'habitude de nous gouverner politiquement, du fait même que justement les services dont je parlais tout à l'heure, les services publics qui constituent l'ensemble des biens communs, l'ensemble des propriétés sociales offertes à tous, étaient déjà largement entamés, puisque modélisés, normalisés, si vous voulez, sur, encore une fois, la pensée du profit de l'entreprise, du budget, etc. Je ne sais pas si je suis clair. Mmh. À partir de ce moment-là, la peur, déjà, elle existait. Je veux dire, la peur, elle naît de l'impossibilité ou de l'interdiction de faire lien social avec l'autre. Et le sentiment de sécurité, la réalité de la sécurité, comme le sentiment, les deux vont ensemble, c'est très important, vous voyez, provient de quoi ? De l'idée d'une fraternité, d'une solidarité, d'une sympathie, presque au sens philosophique de Hume, une sympathie avec les autres, c'est-à-dire que je peux compter sur ceux qui sont autour de moi. Or, dans le modèle néolibéral, on ne peut plus compter sur ceux qui sont autour de vous, puisque vous êtes en compétition, en concurrence avec eux, pour faire mieux qu'eux. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez, la peur dont on parlera beaucoup aujourd'hui, ou la terreur dont on parlera beaucoup aujourd'hui, en quelque sorte, on l'a déjà laissé émerger plus insidieusement, moins, de manière moins obscène, de manière moins directe, on l'a laissé émerger dans les décennies qui ont précédé.
Alors peut-être, vous dites aussi qu'on est finalement pris en tenaille entre le néolibéralisme d'une société technicienne, et ça vous venez d'en parler, donc qualifié de technofasciste, face au tribalisme de l'intégrisme religieux, et là vous parlez de théofascisme. Et c'est assez rare, peut-être il faudrait s'arrêter sur cette qualification, parce que vous savez, y compris dans les rangs de la pensée politique de gauche, voire d'extrême gauche, il y a une difficulté à nommer l'intégrisme islamique parce que c'est la religion des opprimés, parce qu'il y a le passé colonialiste. Vous dites, vous y allez, vous dites c'est du théofascisme.
Bien sûr, c'est du théofascisme. Mais je dis théofascisme, vous l'avez compris, pour ne pas parler d'islamofasciste. A contrario d'autres personnes. Parce que je pense que ça n'est pas propre à l'islam, que c'est en quelque sorte une théocratie. Ça veut dire qu'une théocratie, elle peut être aussi, bien sûr, s'installer en référence à un des trois monothéismes, par exemple, hein, mais pas seulement. Mais, et je parle de fascisme dans la manière, bien sûr, de gouverner, dans la manière d'imposer. Mais alors, la grande question qui se pose, j'ai eu une émission avec Antoine Spire là-dessus, la grande question, si vous voulez, qui se pose, c'est la question de savoir si nous avons affaire à une islamisation, par exemple, de la radicalité, ou à une radicalisation de l'islamisme. C'est une grande question qui a été débattue par Raphaël Liogier, qui a été débattue par...
Qu'on avait invité dans ce studio.
Voilà, aussi par Jean Birbaum sur un silence religieux, etc. Bon, qui est aussi, comme vous le savez, en débat entre Olivier Roy, Gilles Kepel, etc. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de gens qui... Bon, moi je crois qu'il y a une espèce de... N'ayons pas peur des mots, hein. Bon, vous l'avez compris, je suis trop vieux pour avoir peur des mots. Il y a une surdétermination du phénomène auquel nous assistons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rendre compte avec un seul facteur, une seule problématique, en disant c'est l'islam, dans l'islam c'est le sunnisme, dans le sunnisme c'est le salafisme et le wahhabisme, etc. Bon, je veux dire, c'est un facteur parmi d'autres, effectivement, qu'il y a un islam des Lumières et il y a un islam, on va dire, de l'obscurantisme, hein, puisque sunnisme, ça veut dire les pieux ancêtres, ça veut dire que finalement on va vivre comme du temps du prophète, et donc rien, entre guillemets, ne peut changer, qu'il va falloir faire secte, c'est-à-dire section, avec le reste de la société, en particulier de la société, si vous voulez, moderne, occidentale, etc. Bon, donc ça fait partie, c'est un des facteurs. Mais ce facteur, par exemple, on ne peut pas le dissocier aujourd'hui en fonction de ce qui a pu se produire de terrible en France, en Belgique et ailleurs. On ne peut pas le dissocier du fait que, par exemple, les gouvernements européens ont été très heureux, à un moment donné, d'externaliser, si vous voulez, les missions culturelles, éducatives, voire de santé ou de solidarité, qu'ils avaient à assumer et qu'ils ont préféré externaliser vers des associations privées qui ont été financées par le Qatar ou par l'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, c'est pas dissociable. Donc, c'est pas le sunnisme, c'est pas le salafisme, c'est pas le wahhabisme. C'est aussi, en quelque sorte, l'externalisation que les gouvernements européens, n'est-ce pas, ont pu faire des missions qui leur revenaient dans l'accueil des populations immigrées. C'est un des éléments. Mais c'est pas le seul élément. Un autre élément, si vous voulez, qui me paraît extrêmement important, c'est que, encore une fois, on va prendre, bien sûr, le terrorisme dit salafiste ou islamique, etc. Mais je voudrais quand même, encore une fois, dire et redire que ça n'est pas le monopole des islamistes et de l'islam, que vous pouvez avoir demain, n'est-ce pas, des catholiques intégristes radicalisés, que vous pouvez avoir demain des protestants radicalisés.
L'exemple des juifs, conflits en Irlande entre catholiques et protestants est là pour nous le rappeler.
Voilà, une religion judaïque qui peut être également prise, si vous voulez, par la radicalité, etc. Bon, enfin, vous savez très bien que dernièrement une compagnie a été accusée par une femme israélienne qu'on a obligée de se déplacer parce que j'arrive pas à trouver mes mots, mais le juif intégriste qui était à côté d'elle a demandé à ce qu'une femme ne soit pas à côté de lui. Donc, je veux dire que, vous comprenez, ce que je voudrais quand même qu'on puisse entendre, c'est que la violence de la radicalisation, elle peut trouver n'importe quelle enveloppe formelle religieuse, c'est pas forcément la religion à laquelle on doit imputer cette responsabilité. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Je crois qu'il y a un point qui est quand même très important, et si je peux me permettre juste sur ce point-là, parce qu'il me paraît extrêmement important, c'est que la violence terroriste, elle émerge dans une crise sociale, politique donnée, et qu'elle est pour moi indissociable de la mondialisation, de la globalisation, qu'elle est indissociable du néolibéralisme. Et vous parliez, Michel, tout à l'heure, de la rationalité. Il va de soi qu'il y a un rationalisme économique morbide qui a violenté les populations et qui a servi, pourrait-on dire, n'est-ce pas, les intérêts, si vous voulez, de certains terroristes. Juste encore un dernier point, n'est-ce pas ? On ne peut pas non plus dissocier l'émergence de Daesh, par exemple, de la manière dont les officiers sunnites irakiens en 2003 ont été écartés du pouvoir par Paul Brenner après l'invasion américaine, avec ce pari géopolitique qu'en donnant le pouvoir aux chiites, on allait avoir une plus grande loyauté par rapport à l'Amérique. Donc, vous voyez, tous ces éléments me paraissent indissociables, sont interdépendants.
Restons un petit peu, ou venons-en à l'actualité, avec un éclairage. On a vu un débat qui est malheureusement récurrent et qui est revenu ces jours-ci. C'est celui du voile, du port du voile. Il y a eu, il y a quelques jours de ça, à Sciences Po, vénérable institution, une journée hijab port du voile. Alors ça va contre le conformisme, Roland Gory, le conformisme que vous critiquez, notamment dans La Fabrique des imposteurs. Ça, vous l'acceptez, vous le regardez avec bienveillance en disant que c'est une forme de sortir, d'être actif, de sortir de l'apathie. C'est...
Oui, si vous voulez...
C'est aller contre la norme.
Oui, oui, non, mais la norme, qu'est-ce que c'est? La norme, c'est, comme disait Canguilhem, la somme des exigences qu'on impose à des existences. Donc, on revient, Michel, à la question de la contrainte, à la question, si vous voulez, de la violence symbolique opérée sur les individus et les populations. Bon, Sciences Po, effectivement, je crois qu'ils ont, décrété une journée...
Une journée diable,
oui. Ben, non, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est une façon... aussi de l'arracher, si vous voulez, à une revendication symbolique où ça va devenir, pourrait-on dire, le drapeau de soit du romantisme noir des adolescents, soit le drapeau, si vous voulez, d'une religion qui veut faire coupure avec le reste. Pourquoi pas? Je veux dire, je crois que tout ce qui peut faire bouger les conformismes aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Je crois que sur la question du voile, on y est. La question du voile, si vous voulez, moi je trouve un petit peu dommageable que ce qui est de l'ordre d'une norme ou d'une coutume soit à un moment donné figé dans une loi. Pour une raison simple, c'est parce que je crois, alors là, on peut dire qu'il y a une espèce d'inflation de la loi pour gérer nos existences. Et c'est terrible pour nos existences, parce que du coup, elles sont extrêmement calibrées, extrêmement contraintes, et on va se mettre en quelque sorte à tacler toute personne qui n'est pas dans le moule conformiste, mais je crois que c'est terrible aussi pour la loi, parce qu'elle perd justement son caractère sacré. C'est-à-dire que c'est un doyen qui avait fait un livre qui s'appelait « La passion du droit sous la Ve République », un doyen de la faculté de droit, où il disait qu'à partir du moment où vous faites trop de lois, la loi devient simplement une circulaire de service. Et ben, je crois que c'est ça un peu le drame aujourd'hui. Et on voit bien d'ailleurs comment souvent aujourd'hui on confond les enjeux. On va dire par exemple il faut interdire le port du voile parce que le port du voile c'est l'obligation de la soumission de la femme, etc. Bon. Mais non, je crois que il faut différencier les choses. S'il y a des abus dans effectivement les violences faites aux femmes, c'est ça qu'il faut condamner, c'est ça qu'il faut sanctionner, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est pas forcément la manière dont les gens, si vous voulez, s'habillent, ou la manière dont les gens mangent, ou la manière. Je crois qu'il y a une espèce d'effet pervers, d'effet, si vous voulez, tendancieux. Si on dit, par exemple, les migrants, il y a parmi eux des terroristes, eh bien, effectivement, ce qu'il faut chasser, c'est les terroristes, c'est pas les migrants. Donc, vous voyez, on est souvent, à mon avis, là, en porte-à-faux.
D'accord. Un mot sur la phrase de Michel Benassayag qui dit « On est en train de passer finalement d'une société qui juge les actes à une société qui juge l'être. »
Ça, c'est Michel Foucault, hein. Oui, d'accord. Mais,
non, mais, on est dans cette constance, dans cette...
Oui. Non, mais je veux dire, vous avez des textes formidables, Michel Foucault, comme Les Anormaux, son cours de 74, c'est quand même 40 ans, où il dit, par exemple, que la société demandait à la psychiatrie de dire comment le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. Et il montre comment on passe d'une sanction, si vous voulez, qui portait sur l'acte criminel, sur l'acte délictueux, à quelque chose qui va sanctionner la substance de l'être de celui qui commet l'acte. Y a toute l'œuvre de Foucault est là-dessus. Hein.
On a fait les constats, les différents constats de ce qui n'allait pas. Vous en appelez quand même, parce que pas des solutions, mais en tout cas une manière de réagir à l'insurrection des consciences par la culture. C'est bien ça? Mais oui. À ce moment-là, on vous dit quelle culture? Parce que la culture, c'est ce qui est déversé le plus aujourd'hui.
Bien sûr. Bon, si vous voulez, la culture, c'est, comme disait Gramsci, c'est le folklore, c'est la manière d'être, c'est la manière d'échanger. La culture, c'est pour moi, par exemple, quelque chose qui n'est pas du même ordre. Pour moi, alors, puisqu'on citait les ancêtres, il faut citer Adorno, l'école de Francfort, les sociologues de l'école de Francfort, il faut distinguer la culture des industries culturelles. Les industries culturelles, c'est du côté du divertissement. C'est du côté des télévisions à la Berlusconi, pour aller vite. Voyez, c'est-à-dire, en gros, des spectacles. Alors, citons aussi les ancêtres, Guy Debord, hein, la société du spectacle.
Aujourd'hui, pour vous, la culture se résume essentiellement à ça, comme non, la démocratie non, se non. résume à la liturgie du vote.
Non, mais la culture est menacée par les industries culturelles, comme la démocratie est menacée pas simplement par le vote, pas question du vote, moi je vote, hein, mais la démocratie est menacée par, si vous voulez, sa réduction à un ensemble purement formel d'institutions. Pour prendre un exemple, j'ai été invité à parler de la 6e République au niveau d'une des manifestations du Front de Gauche.
Bon, j'allais dire que la 6e République. Front de Gauche que vous avez soutenu.
Que j'ai soutenu, oui, bien sûr. Non, mais il y a par exemple une culture, si vous voulez, sociale, il y a une culture ouvrière, il y a une culture d'éducation populaire importante. On parlait tout à l'heure de l'émergence des théofascismes. On pourrait aussi parler de l'émergence des néopopulismes, et en particulier du score calamiteux du Front National dans nos régions, comme vous savez. Bon, mais il faut bien voir, n'est-ce pas, quelle est la culture, quelle est la société qui favorise ce type d'émergence. Il va de soi que vous prenez, n'est-ce pas, la carte des résultats électoraux, et vous voyez bien, c'est que c'est déjà passé dans les années 30, n'est-ce pas ? Vous voyez bien comment, justement, là où le Parti communiste était implanté, là où la gauche socialiste radicale était implantée, n'est-ce pas ? À partir du moment où il y a eu cette crise et où il y a eu une manière social-libérale de la traiter, le déplacement des voix s'est effectué au profit du Front National, par exemple. Vous voyez ? Donc, je crois que, pour en revenir à la question, si vous voulez, de la 6e République, je crois que j'avais dit à ce moment-là, lorsqu'on m'avait invité à me prononcer là-dessus, la 6e République, pourquoi pas ? Mais la 6e République, elle ne doit pas s'arrêter aux portes de l'usine ou des services ou des laboratoires, comme disait Jaurès lorsqu'il disait « la démocratie ne doit pas s'arrêter aux portes des usines ». C'est-à-dire que la 6e République, si vous ne changez pas la manière de vivre ensemble dans les lieux de travail et dans les lieux sociaux, vous changerez simplement le personnel politique, vous changerez simplement les institutions, mais vous ne changerez pas fondamentalement ce qu'il est de la culture. Juste un mot peut-être, pour moi la culture c'est le politique. C'est la même chose. C'est la même chose.
Michel. Alors il y a le politique et puis les politiques, les hommes politiques, et vous dites quelque chose, peut-être expliquer aux auditeurs ce que vous entendez par là, la formule est jolie, que les hommes politiques pour vous sont prolétarisés.
Oui, intellectuellement parlant, vous voulez dire ?
Non, si vous voulez, mais je pense qu'il faut revenir à la définition du prolétariat. Je dis que, en gros, nous sommes aujourd'hui face à une prolétarisation généralisée de l'existence. Bon, c'est vrai, bien sûr, du médecin, du psy, du journaliste, du magistrat, si vous voulez, de l'acteur culturel, etc. Mais c'est vrai aussi du politique. Qu'est-ce que j'entends par prolétarisation ? Quand Marx parle de prolétaire, n'est-ce pas ? Il veut dire par là que l'ouvrier est prolétaire, pas simplement eu égard aux conditions misérables qui sont les siennes, de par l'urbanisation, de par l'industrialisation, etc. Il est prolétarisé en tant que son savoir-faire, son savoir-être, son savoir se trouve confisqué par les exigences de la machine. Revient au technofascisme, les exigences de la machine qui lui disent précisément les actes rationnels et fragmentés qu'il doit accomplir. C'est qu'à partir de ce moment-là, tout se passe comme si, c'est repris par Simone Weil, la philosophe, tout se passe comme si, si vous voulez, le lieu de la décision passait de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine qui est le véritable décideur. Alors, je crois qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on voit bien comment le monde paysan est prolétarisé, pas simplement en fonction du prix de kilo de la viande de porc, mais prolétarisé aussi en tant que le savoir-faire, le savoir-être de paysan se trouve confisqué par les exigences des industries agroalimentaires qui lui prescrivent ce qu'il doit faire et comment il doit vivre. Donc, la prolétarisation, elle concerne aussi, bien sûr, si vous voulez, ce qu'on appelle les classes moyennes, ou ce qu'on appelle les professionnels, si vous voulez, de l'humain, par exemple, qui, on va dire, la dimension artisanale du travail de journaliste, la dimension artisanale, si vous voulez, du soin, se trouve confisquée par des machines immatérielles, mais bien réelles, qui vont être les logiciels, qui vont être les règles de bonne pratique, qui vont être les protocoles standardisés. Donc pour moi, elle est là, la prolétarisation. Et le politique, lorsqu'on lui dit, en quelque sorte, qu'il doit avoir moins de 3% de déficit, etc., lorsque il gouverne par les chiffres, il ne gouverne plus. Lui aussi, il est prolétarisé. Il faut quand même quelqu'un, je crois que c'est ça l'enjeu de demain. Il faut quelqu'un qui puisse se dire, comme l'a pu le faire Roosevelt, n'est-ce pas ? Non, ça suffit. Ça suffit.
Vous dites, ouais, le politique est un administrateur, un gestionnaire, et il y a une demande, et là on revient au début de l'émission, oui. On va conclure bientôt, il y a une demande de consistance politique qui tout s'exprime à face à des élus qui ne sont que des fantômes, qui sont dans le formalisme, qui dans la déclaration d'intention, dans le.
Si vous voulez, ce que j'essaie un peu de développer d'ailleurs dans le bouquin à plusieurs reprises, c'est d'essayer de montrer justement que ce soit à la fin du 19e siècle ou entre les deux guerres, entre la première et la deuxième guerre mondiale, ou aujourd'hui à mon avis, vous avez une crise des valeurs libérales qui permettent de donner un sens et une cohérence à nos récits singulier et collectif pour vivre. Je ne sais pas si je suis clair. Bon. Or, justement, la crise des valeurs libérales, c'est quoi ? C'est que, à la fin du XIXe siècle, comme entre les deux guerres, l'idée fondamentale, reprise sans arrêt par les uns et les autres, c'est finalement le libéralisme, ça produit de la casse humaine, oui, mais il n'y a pas mieux. Et ça finira bien, de toute façon, par produire une richesse collective avec la théorie du ruissellement, vous savez, qui fait que tout le monde finira par en profiter. Bon, c'est pas vrai. À la fin du 19e, on s'aperçoit que l'accroissement des richesses collectives n'ont pas forcément amélioré la réduction des inégalités sociales. Donc ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai aussi entre les deux guerres. Ça n'est pas vrai aujourd'hui, comme vous savez. Autre idée également, n'est-ce pas ? Le libéralisme, c'est formidable parce que ça donne une liberté extraordinaire. Ça n'est pas vrai, si vous voulez. Ça n'est pas vrai parce que cette liberté, elle est formelle. Parce que la liberté dont je peux bénéficier n'est pas forcément la même liberté de celui qui n'a pas d'emploi, qui est à la rue et qui n'a pas de liens familiaux. Donc la grande révolte, c'est le point très important sur lequel je voudrais dire un mot, la grande révolte, si vous voulez, qui s'opère à la fin du XIXe siècle entre les deux guerres et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que l'individu libéral est un individu que l'on a déraciné de ses attaches familiales, sociales, linguistiques, historiques, patrimoniales. C'est-à-dire que c'est là-dessus que le nazisme va surfer, d'ailleurs. C'est de dire, oui, mais la liberté, l'égalité, tout ça, au niveau du libéralisme, c'est purement abstrait, ça n'existe pas. Et là-dessus, vous avez justement des individus qui pâtissent d'une situation et qui trouve dans ce discours quelque chose qui lui donne un sens. Ce que vous avez aussi à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, vous avez l'émergence de mouvements de masse. Alors, ça va dériver vers l'antisémitisme, ça va dériver vers les nationalismes, ça va dériver, bien évidemment, si vous voulez, vers des populismes tout à fait odieux, comme nous les avons connus. Alors, le danger majeur, il est là. Donc, il faut bien que nous soyons à même de produire un autre récit collectif, qui, à mon avis, se doit de reconnaître les particularités linguistiques, historiques, si vous voulez, des individus, et puisse leur permettre de trouver dans ce récit quelque chose qui donne un sens et une cohérence à ce qu'ils font.
Est-ce qu'avec tout ce qu'on a dit durant une heure, et on arrive au terme de cette émission, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un de ces moments que vous venez de décrire, à un de ces moments de réactivation de l'histoire ? Est-ce que l'histoire n'en finit pas de recommencer finalement ?
Il est évident aujourd'hui que la fin de l'histoire que nous promettait Fukuyama il y a quelques décennies, c'est obsolète, c'est dépassé. Il va de soi que nous avons affaire quand même. Enfin, si vous voulez, peut-être qu'on arrivera à éradiquer Daesh, Il faut souhaiter, compte tenu de la terreur qui s'est installée, non seulement dans nos régions, mais il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé le 13 novembre, qui est absolument épouvantable, ou en janvier 2015, qui est absolument épouvantable, j'ai perdu mon ami Bernard Maris, si vous voulez, dans cette tragédie, ça se passe en Irak, ça se passe au Liban, ça se passe en Turquie, c'est-à-dire qu'il y a une terreur qui est absolument atroce, tragique, mais elle doit nous interroger. C'est-à-dire, comment est-ce que nous en sommes arrivés là ? Et là, on ne peut pas dire que c'est l'œuvre de psychopathes criminels ou de religions folles. Je crois qu'il faut justement se demander quelle est la part de la globalisation et d'un néolibéralisme globalisé dans l'émergence de ces phénomènes-là. Sinon, ce n'est pas compliqué. Sinon, vous aurez une émergence de plus en plus vive, si vous voulez, de mouvements néopopulistes, de mouvements racistes, de mouvements antisémites, anti-islam, etc. Et vous aurez l'appel à une espèce de sauveur, à une espèce de fureur. C'est ça le danger. C'est que si la gauche et éventuellement, je dirais, la droite humaniste n'est pas à même... Je ne vais pas tomber dans le ni droite ni gauche de Macron, parce que ça, on a déjà donné, ça s'appelle le fascisme. Vous avez tous les travaux de Ziv Sternel là-dessus. Je pense que Macron n'a pas dû lire Ziv Sternel. Bon, c'est un autre problème. Mais je pense que si nous ne sommes pas à même de proposer une alternative humaniste, on va vers les pires tragédies.
La révolution comme possibilité politique, c'était Weber qui disait ça.
Oui, bien sûr. Mais la révolution, si vous voulez, la révolution...
Très vite.
Très vite, le problème, c'est pareil, c'est un mot qu'il faut réinsérer dans le contexte chaque fois du moment historique. Sinon, révolution, ça veut dire revenir au point de départ. Je n'ai pas du tout envie que nous revenions au point de départ.
Roland Gory, je vous remercie. On se retrouve le mois prochain. Élisée Le Ravi, bye.